Vous êtes sur RTL.
RTL. Isabelle, je te trouve sublime. Tu as un corps magnifique. Et alors, pardon de le dire comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce cul?
Le journal inattendu.
En fait, c'est juste... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Antoine, t'es en train de me draguer, là?
Ouais, peut-être, ouais.
12h30, 13h30.
Je peux faire ce que je veux.
Vous inquiétez pas, vous pouvez y aller.
Vraiment, tout ce que je veux.
Ouais, tout ce que vous voulez, oui.
Laurent Lafitte est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Bonjour Laurent Lafitte.
Bonjour.
Merci d'être pour une heure le rédacteur en chef de ce journal inattendu. On est à 11 jours maintenant de la sortie de Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs de Guillaume Canet. Vous y retrouvez votre personnage d'Antoine, oui. ce grand dadais naïf, éternel adolescent,
oui.
Soumis.
Un peu, oui, c'est un peu plus soumis dans celui-là.
Ouais. Et pourtant très attachant. On va y revenir à ce personnage d'Antoine. On va parler du film, du tournage, de cinéma, mais aussi de vous, de votre carrière qui a explosé en quelques années. On est loin de Classe Mannequin. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Laurent Lafitte de la Comédie Française. On parlera du One Man Show, hein, d'il y a quelques années. Et puis de vos rôles au cinéma. On pense par exemple au Salaud d'Au revoir là-haut, qui a marqué les esprits. Au menu également un arrêt sur image. Une photo qui a fait le tour du monde il y a quelques jours. Le premier cliché d'un trou noir, vous avez souhaité en savoir plus avec votre invité Alain Riazuelo, chargé de recherche CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Vous voyez que je ne sais pas moquer de vous.
Ouais,
et il sera là dans quelques minutes. Et puis votre reportage va nous emmener aux côtés des modérateurs des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, des réseaux sociaux d'ailleurs, où vous brillez par votre absence. Je suis allé voir vos comptes Twitter et Facebook, ils sont assez vides.
Oui, c'est vrai.
Tiens, bah, vous nous direz sans doute pourquoi. Dans un instant, ce sera les infos. Vous pourrez réagir si vous le souhaitez à l'actualité. Mais avant cela, Laurent Lafitte, faut vous tirer le portrait.
Ah bon, bah écoutez, c'est déjà ça. Non, je vais pas vous dire qui je suis. Je vais vous dire qui j'aurais aimé être. Ce sera une manière de parler de moi quand même. J'aurais aimé être Victor Hugo, hein, pour que tout fasse œuvre et que les putes s'arrêtent de travailler en hommage. Le jour de mon enterrement. J'aurais voulu être anglais pour me moquer davantage de moi-même et un peu moins des autres. J'aurais voulu être Marceline Laurie dans Events pour avoir su transformer le pire. J'aurais voulu être Cabu pour être un enfant mais conscient. J'aurais voulu être Ella Fitzgerald pour que le sublime paraisse sans effort. J'aurais voulu être une femme, hein, bon ben pour connaître tout ce que je connaîtrai jamais. J'aurais voulu être Louis Pasteur pour être vraiment utile et Louis Lumière pour l'être différemment. J'aurais voulu être une vache Salers dans un pré au milieu du Cantal, tranquille.
Ah oui,
tranquille.
Mais
peinard.
Pour finir dans une assiette aussi.
Ah peut-être, mais c'est une manière d'être utile aussi. J'aurais voulu être moi-même un peu plus rapidement, comme ça j'aurais fait moins de conneries, je pense. J'aurais voulu être Michel Serrault, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, James Stewart, Sinatra, Churchill. Et ben, j'aurais voulu être moins mégalo aussi, du coup. J'aurais voulu être Molière pour mourir dans l'exercice de mes fonctions. Ou Félix Faure, pour les mêmes raisons. J'aurais voulu être un animal, mais un vrai. J'aurais voulu être Marlon Brando, pour mettre tous les sexes d'accord. J'aurais voulu être un sac plastique, pour découvrir la nature sauvage de l'intérieur. J'aurais voulu être celui qui va sauver notre planète, alors que je le suis déjà, comme nous tous. J'aurais voulu être très riche, pour avoir le luxe de comprendre que c'était pas ça le problème. J'aurais voulu être Emmanuel Macron pour avoir le pouvoir d'agir. J'aurais voulu être Michel Houellebecq pour mériter les honneurs et être Blanche Gardin pour savoir les refuser. J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être ou ne pas être. Ça, voilà, c'est la question, mais je pense que être, c'est bien.
En tout cas, l'artiste, vous l'êtes. Vous êtes Laurent Lafitte et jusqu'à 13h30, le rédacteur en chef de Journal Inattendu. J'ai l'impression qu'on va pas s'ennuyer, vous l'avez compris. On commence par les infos. L'actualité de ce samedi 20 avril, dominée par ce 23e acte des Gilets jaunes. 60 000 policiers et gendarmes mobilisés. 70 interpellations déjà depuis ce matin. Le gouvernement redoute la présence des casseurs. Nous serons à Bercy dans un instant pour le début d'une manifestation autorisée. autorisé. Un cadeau de 15 milliards d'euros pour les sociétés d'autoroutes révélé par la Cour des comptes. Le plan de relance de 2015 devrait finalement leur rapporter 5 fois plus que leurs investissements. La colère d'un historien du patrimoine 5 jours après l'incendie de Notre-Dame. 5 ans pour reconstruire, dit-il. C'est un temps politique et ce n'est pas sérieux. Le tennis féminin, France-Roumanie ce week-end à Rouen, demi-finale de la Fed Cup, c'est pas gagné d'avance pour les Bleus. Et puis le football, 33e journée, Lyon a gagné hier, Marseille joue à Guingamp à 17h. Évidemment, on a gardé le meilleur pour la fin, c'est la météo. Elle est estivale, Patricia Charbonnier.
Ah, depuis hier, c'est l'été qui s'installe. Les températures sont 10 degrés au-dessus des normales de saison, 26 degrés cet après-midi à Paris comme à Grenoble, 24 degrés à Orléans, à Lyon et Nîmes, 22 à Toulouse, 21 degrés à Brest, 19 à Aurillac et 18 degrés pour la température la plus basse à Biarritz. Côté ciel, c'est très ensoleillé cet après-midi sur la moitié nord. Près des frontières de l'Est, c'est un petit peu plus nuageux du côté de la Méditerranée. Et c'est plus instable du côté des Pyrénées et sur les régions centrales, avec là des averses qui vont se déclencher cet après-midi. Et localement, quelques orages qui pourront être forts.
Merci Patricia. À 13h, c'est vous, Laurent Lafitte, qui ferez Monsieur Météo.
Avec plaisir.
Un nouveau rôle.
Le journal inattendu sur RTL.
Le temps estival, les vacances pour les trois zones, le week-end pascal. Vous êtes nombreux à partir ou être partis pour prendre un bol d'air et de soleil. Bison Futé a hissé le drapeau orange sur le sens des départs. Dans le sens des départs, il a bien fait parce qu'il y a énormément de monde. Si vous êtes actuellement en train de quitter la capitale, près de 300 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Vous avez bien fait de rester à Paris, Laurent. Les trains sont remplis, les TGV affichent complet. La gare Saint-Charles à Marseille voit donc débarquer depuis ce matin des milliers de candidats à un week-end rallongé qui ne devrait pas être désagréable avec ce temps. Hugo Hamelin, vous êtes sur place.
Oui, bonjour. Et 100 000 voyageurs qui vont transiter par la gare Saint-Charles de Marseille ce samedi. La plupart ne restent que quelques jours et le programme est déjà bien ficelé.
Se ressourcer au bord de la mer et puis se balader dans Marseille, à la Canebière, aller au marché, manger du poisson. C'est également aller ce soir à la célébration à la Bonne Mère, la veillée Pascal en fait. Voilà.
Un week-end pascal, donc avec les lunettes de soleil si possible. Après ce long voyage, certains vont aller profiter d'un temps qui est déjà estival dans la région. C'est le cas de Chloé et Clémence qui sont originaires de Paris.
Le voyage il s'est bien passé, je suis super contente d'arriver à Marseille. Bah déjà il y a la mer, je penserais aller me baigner ou peut-être partir en montagne pour monter en haut.
On est parti vendredi, on est venu voir la mer et on est venu surtout profiter de la nature et pouvoir marcher un peu sur la côte près de Cassis, La Ciotat, etc.
Ciel bleu et grand soleil, ça va peut-être pas durer, nous disait Patricia Charbonnier, mais pour le moment, à Marseille, les vacances démarrent bien.
Bon, écoutez, profitez-en pour l'instant, pourvu que ça dure. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Pas de week-end pascal, pas de vacances pour vous. Boulot.
Ben oui, je suis au théâtre, donc on joue le samedi et le dimanche, heureusement.
Bon, d'accord, donc ouais. Le soleil, ça sera pour plus tard.
Voilà.
Même pas pour cet été, j'ai l'impression.
Non,
on en parlera.
Ouais.
Tiens, prudence en montagne, si vous êtes de ceux qui profitent du ski de printemps. Ce matin, sachez qu'un snowboarder de 25 ans a été retrouvé mort sur une piste de Samoëns en Haute-Savoie. Ce sont les pisteurs, en ouvrant les pistes, qui ont découvert son corps. Le soleil et la chaleur sont donc au rendez-vous de cette 23e journée d'action des Gilets jaunes. Depuis deux jours, le gouvernement ne cache pas son inquiétude et prévoit la présence de casseurs à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Paris. Au total, 60 000 policiers et gendarmes mobilisés. Dans la capitale, deux secteurs sont bouclés, celui des Champs-Élysées et celui de Notre-Dame. Et attention, si vous voulez vous déplacer en métro, c'est très compliqué. Des sections entières sont fermées sur les lignes 1, 6, 8, 9, 12, 13. Difficultés dans les bus également. Dans les rues, pour l'instant, tout est calme. Il y a eu 70 interpellations depuis ce matin à Paris. Un rassemblement autorisé est en cours à Bercy, près du ministère des Finances. Sinamir, vous êtes sur place. Le cortège est d'ailleurs en train de partir, encadré par un gros dispositif policier.
Oui, comme on a pu le voir aussi un peu partout en traversant l'hypercentre parisien ce matin, beaucoup d'unités mobiles à moto renforcent les escadrons de gendarmes et les compagnies de CRS présentes. 24 points de contrôle en tout dans la capitale. Pour ce 23e samedi de mobilisation, un ultimatum 2, comme certains manifestants ont choisi de l'appeler, qui inquiète un peu Idir, venu tout de même manifester sous le soleil avec son gilet jaune.
Oui, j'ai un doute, ouais, carrément. Bah, y a eu quand même des appels sur le net à sortir du cadre du pacifisme. Donc chacun aura sa méthode de contestation, mais ce serait dommage. Quoi. S'il faut mettre des ultimatums pour qu'ils puissent répondre, c'est triste.
Les annonces issues du grand débat qu'Emmanuel Macron a dû retarder cette semaine à cause de l'incendie de Notre-Dame ne semblent pas trouver écho ici pour le moment. En tout cas, en ce début de cortège jaune, Laure est infirmière à Nancy.
J'ai participé au grand débat parce qu'on n'est pas là juste pour crier dans la rue. Et par contre, quand je vois la restitution, à se demander à quel débat il a participé. Nous, on demande l'ISF, il nous propose la suppression de l'ENA. On demande un RIC en toute matière, il nous propose un RIC local. Ouais. On trouve des milliards à débloquer en 24 heures pour de la pierre. Et par contre, ça fait 4 mois qu'on est dehors et après ça, disons qu'il n'y a pas d'argent.
Dans quelques dizaines de minutes, un autre parcours autorisé doit lui partir de la basilique Saint-Denis. Il traversera la capitale cet après-midi jusqu'à la faculté de Jussieu.
Sinami, en direct de Bercy pour RTL. Quand on joue au théâtre tous les soirs, qu'on travaille beaucoup, mm-hmm. on est dans la promotion d'un film dont on va largement parler. Laurent Lafitte, quel regard on porte sur un mouvement comme celui des Gilets jaunes? On sent loin de tout ça ou pas? Concerné.
Non, je me sens à la fois concerné et loin de tout ça parce que j'ai la chance de pas en ce moment, hein, parce que moi je suis comédien, j'ai connu plein d'aspects de ce métier.
Dire la galère aussi.
Oui, bien sûr. Ouais. J'ai jamais été en galère parce que je venais d'un milieu où je savais que au pire du pire,
je
rentrais chez moi, j'aurais jamais été à la rue, j'ai jamais eu la chance de subir cette pression-là. Mais oui, mais quand on est comédien, on s'intéresse à l'humain, à notre société, aux gens avec qui on partage notre existence. Donc évidemment que les Gilets jaunes, j'ai plutôt tendance à soutenir le constat qu'il y a un problème. Après, la méthode d'expression, même d'un point de vue pragmatique, je pense qu'il faut qu'ils réinventent un peu le moyen de s'exprimer pour déjà être plus efficace médiatiquement, et puis aussi pour être peut-être un peu plus audible, et parce que leurs motivations sont encore justes, je pense.
Légitime. On va marquer une pause dans votre journal inattendu, Laurent Lafitte. Dans un instant, évoquer ce qui semble être un gros cadeau aux sociétés d'autoroute, et puis revenir sur l'incendie de Notre-Dame. À tout de suite.
Bougez plus. Le journal inattendu sur RTL, avec Laurent Lafitte et Vincent Parisot.
L'État a-t-il fait un cadeau de 15 milliards aux sociétés d'autoroutes en 2015? C'est en tout cas ce qui ressort d'un référé de la Cour des comptes publié jeudi. C'est vrai, passé un peu inaperçu dans l'émoi provoqué par l'incendie de Notre-Dame. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que le plan de relance autoroutier qui avait été signé il y a 3 ans entre l'État et les sociétés d'autoroutes leur a finalement, Martial You, été très très favorable.
Mais oui, souvenez-vous du contexte en 2015. Le gouvernement est alors empêtré dans un bras de fer avec les sociétés d'autoroutes parce que Ségolène Royal, ministre à l'époque de l'Environnement, a décrété un gel des tarifs de péage qui est très populaire mais inapplicable. François Hollande, lui, a promis une inversion de la courbe du chômage qui ne vient pas. Or, le contrat de modernisation des autoroutes promet de créer 10 000 emplois dans le bâtiment et les travaux publics qui sont au fond du trou économiquement à ce moment-là. Donc l'État accepte de signer ce contrat avec les sociétés. Les concessionnaires, eux, vont établir un budget de travaux à leur charge avec les services de l'État qui se chiffre à un peu plus de 3 milliards. Mais ils négocient aussi au même moment un allongement des durées de concession qui vont leur rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. C'est logique pour des compagnies privées, mais c'est vrai qu'au final, ces compagnies d'autoroutes vont investir 1 euro et ça va leur rapporter 5 euros. Mais il n'y a pas d'argent public investi dans le renouvellement des autoroutes. Les 3/4 des chantiers du plan sont d'ailleurs engagés aujourd'hui. Le gouvernement, qui a répondu à la Cour des comptes, n'entend pas revenir sur les conclusions de ce contrat.
Merci Martial You, chef du service économie d'RTL. Et puis en ce week-end, Pascal, Notre-Dame de Paris est bien sûr dans l'esprit des catholiques qui, pour les plus fervents, ont participé à des pèlerinages hier vendredi saint. France 2 diffusera ce soir en direct une grande soirée présentée par Stéphane Bern avec un appel aux dons pour la reconstruction de la cathédrale. Une reconstruction qui, je vous rappelle, devra se faire en 5 ans selon Emmanuel Macron. Ça a été dénoncé ce matin sur l'antenne d'RTL par le président de l'association Sites et Monuments, Alexandre Gadi, qui estime que 5 ans, c'est un temps politique. Laurent Lafitte, qu'est-ce que vous avez ressenti lundi soir? Vous étiez où lundi soir?
J'étais place de l'Hôtel de Ville, donc j'étais vraiment devant l'incendie. J'étais totalement effaré, la toiture était en feu, la flèche aussi. C'était complètement surréaliste. Moi, j'ai toujours vécu à Paris, je suis né à Paris, donc ça fait partie de ma vie quotidienne. Ouais. Et j'étais totalement effaré, sans savoir en plus s'il s'agissait d'un acte volontaire, terroriste, on savait pas trop, quoi. C'était très, très triste, très triste. Ouais.
Je ne sais pas si vous avez lu le Figaro. Fabrice Lucchini a pris la plume. Il a signé une tribune dans le Figaro. Il a cité Charles Péguy, bien sûr, Flaubert. Je suis frappé en plein cœur, hébété, écrit-il. Il souligne quelque chose de mystique autour de cet incendie. On pourrait presque penser à un signe, autrement dit, un signe du ciel.
Oui, parce que c'est une cathédrale qui a brûlé, quoi. Mais si c'était l'Élysée qui avait brûlé, ça aurait été un signe laïque.
Je sais pas.
Après, non, mais on peut voir des signes partout. Mmh. Mais c'est, en tout cas, c'est fort. Ce qui est beau, c'est que ça touche tout le monde, au-delà des religions, et surtout les réactions internationales. On s'est dit, tiens, c'est un truc qu'on partage dans plein de pays, au-delà des religions. Ça, c'est assez réconfortant.
Tiens, encore un mot d'actualité, c'est le sport, le tennis féminin, la demi-finale de la Fed Cup France-Roumanie à suivre à partir de 14h sur RTL. Dans tous les rendez-vous d'infos, on retrouvera Isabelle Langer à 13h. Sachez aussi qu'il y a du football. Hier soir, Dijon a battu Rennes 3-2, mais surtout Lyon a redressé la tête en battant Angers 2-1. À 17h, Guingamp reçoit Marseille. À partir de 20h, 3 matchs que vous suivrez dans le multiplex RTL, l'équipe sur RTL. Ce qu'on va faire, c'est marquer une pause et dans un instant, évidemment, parler avec Laurent Lafitte de la suite des petits mouchoirs. Nous finirons ensemble, signé Guillaume Canet. A tout de suite.
Le bord de la... Le journal inattendu sur RTL.
Avec Laurent Lafitte et Vincent Parizeau.
Voilà, Nina Simone qui chante Love Somebody, extrait de la bande originale de Nous finirons ensemble, comme elle chantait d'ailleurs My Way dans Les petits mouchoirs. Le réalisateur Guillaume Canet, 9 ans après, redonne vie à cette bande de potes réunis au Cap Ferré. Enfin, ex-bande de potes, hein, c'est ça Laurent Lafitte. Parce que très vite, une question se pose, et François Cluzet la pose lui-même. Est-ce que c'est parce qu'on est potes, à un moment, qu'on est obligé d'être potes pour toujours et de finir ensemble?
Bah oui, c'est ça, c'est la vraie question, puisque l'amitié, c'est la famille qu'on se choisit. Donc, c'est-à-dire qu'on est libre. On est libre de la quitter, de la... Mais oui, c'est et puis être ami, c'est pas être là tout le temps, c'est être là quand il faut. Alors, pour le coup, c'est mon personnage qui le dit. Pour une fois qu'il dit un truc un peu sensé. D'ailleurs, tout le monde est un peu étonné autour. Comment il a pu sortir une phrase aussi cohérente. Mais ouais, non, c'est vrai, c'est la question du film. Le premier petit mouchoir partait d'un drame. Mmh. Et comment une bande d'amis allait gérer et réagir à ce drame. Là, c'est plus l'amitié en elle-même qui est questionnée. D'ailleurs, le film est assez indépendant du premier. On peut vraiment voir le deuxième sans avoir vu
le premier.
Je dis pas ça dans un but mercantile.
Oui, c'est quand même vous venir.
Non, mais vraiment en plus. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche de Guillaume, c'est qu'il a pas fait une suite pour surfer sur le succès du premier. Ça aurait mis moins de temps sinon. Mmh. Il fallait vraiment qu'il ait un sujet important et intime à partager.
Je comprends pas. Je te dis que je vais pas bien. Que j'ai besoin d'être seul.
Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête?
Alors, on va peut-être pas rester, hein?
Ouais, carrément.
Véro arrive dans 2 jours, et moi, évidemment, j'étais censé me barrer.
On voulait juste faire une surprise pour ton anniversaire.
Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde!
C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein?
Max, on est revenus parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi.
Mais tu le sais bien, peut-être t'es comme mon grand frère, pas tes bons grands frères à tous.
Alors, comme dans les petits mouchoirs, on alterne le rire et les larmes. En fait, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, tous ces potes, tous ces amis sont dans le mal-être individuel et dans le bonheur collectif.
Oui, un peu. Oui, c'est vrai.
Ils sont tous mal, finalement. Bah, à peu près tous.
Ouais, enfin, ça va. Ils sont pas quand même. Ils sont pas face à des drames.
Non.
Mais
ils ont tous un mal-être.
Oui. Ils ont. En tout cas, ils ont besoin les uns des autres. En tout cas. Et c'est ce qu'ils vont réussir à se formuler.
Ouais. On rappelle l'incroyable casting donc de Guillaume Canet, hein. François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Valérie Bonneton, Benoît Magimel, Pascal Arbillot, José Garcia, Clémentine Bert et Laurent Lafitte de la Comédie Française. Ouais. Hein. Bah, oui, mais si, il faut le dire. Sous les traits d'Antoine, donc, je disais grand dadé, naïf, ado attardé, un peu trop bon, un peu trop con.
Ouais, il y a un peu de ça. En tout cas, c'est celui qui a le moins évolué de la bande par rapport au premier volet. C'est plutôt ses amis autour qui ont évolué, notamment Eric, qui est joué par Gilles Lelouch, qui est devenu une star de cinéma. Et moi, mon personnage s'est un peu transformé en son homme à tout faire, confident.
Son boy, quoi.
Ouais, un peu, ouais. Donc voilà, c'est un peu, ça peut, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand il y a un changement de statut comme ça très fort dans un groupe d'amis, ce que ça modifie autour.
Vous aimez les transformations du visage. Évidemment, on se souvient, d'ailleurs on en reparlera, de votre prestation au dernier César, ouais, lorsque vous êtes apparu en apparence bien botoxé. Certains y ont cru.
Dans ma mère.
Ouais. C'est pas vrai.
Ouais.
Elle a cru que vous étiez parti chez le chirurgien esthétique
parce
avant.
Que là, on ne s'était pas vu depuis plusieurs mois parce qu'elle était à l'étranger. Du coup, elle était un peu en panique. Ouais.
Mais alors, dans Nous finirons ensemble, alors là, c'est le niveau supérieur, niveau Elephant Man, j'ai envie de dire, parce que vous avez un Odette de Coinc. Vous avez dû vous marrer et les faire marrer quand même pendant le tournage.
Ce qui était drôle, c'était justement de ne pas jouer du tout l'œdème, quoi. C'est juste d'avoir cette tête complètement difforme, mais de faire comme si ça allait bien, quoi. Donc ça, c'était assez dur à tenir sur le plateau.
Nous vieillirons ensemble de Guillaume Canet. C'est la suite des Petits Mouchoirs. Ça sort le 1er mai sur les écrans. Je tiens à dire que toute l'équipe sera ici à RTL jeudi matin dans la matinale. Donc vous y serez, je sais, Laurent Lafitte, tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle un instant de votre carrière et je voudrais vous faire écouter ceci. C'était l'émission de Michel Denisot, Profession. La Profession, c'était les agents artistiques et ils ont parlé de vous.
Moi, Laurent Lafitte, au début, moi, je l'ai vu attendre dans le couloir où il n'avait pas vraiment beaucoup de propositions. Il faisait de la comédie musicale, il allait voir des comédies musicales partout.
On allait voir des comédies musicales ensemble partout.
Et Cécile me disait, mais un jour, il va avoir son heure. Moi, je m'en souviens très bien de ça. On en a reparlé ensemble au Montréal. Je l'ai vu attendre. Et jamais à dire, elle ne travaille pas pour moi. Il savait qu'il avait son heure et c'est ça aussi être un agent. C'est de dire, attends, un jour, t'es trop doué, tu n'es pas peut-être à la mode, mais un jour, ça va venir.
Voilà, vous l'avez reconnu, c'est Dominique Besnéard, évidemment.
Merci pour le trop doué. Ça fait plaisir. Mais j'attends là, on a vraiment le type qui rôde dans les couloirs, qui attend du travail.
Mais vous avez rongé votre frein ou
c'était pas? C'était pas ça quand même. Oui, j'étais un peu frustré parce que ça avançait pas aussi vite que ce que je voulais. Mais en même temps, c'est ce qui m'a poussé à écrire, notamment le One Man Show. Donc ça, c'est mon parcours. Quoi.
Ah, le One Man Show, on y reviendra. Mais je voudrais tout d'abord que vous écoutiez cette question que vous a posée l'invité de la semaine dernière, le réalisateur Olivier Barou. Il était ici à votre place. Tiens, voilà ce qu'il vous demande.
Bonjour Laurent Lafitte, c'est Olivier Barou. Enfin, bonjour Laurent, c'est Olivier. Laurent, j'ai une question qui va faire appel à tes souvenirs. J'aurais juste que tu me racontes dans quel état d'esprit tu étais lorsqu'on s'est rencontré la première fois, que tu étais jeune acteur et que tu étais figurant dans une toute petite scène dans Qui a tué Pamela Rose. Raconte-nous où est-ce que tu en étais de ta carrière, comment est-ce que tu voyais les choses, est-ce que tu t'imaginais vivre ce que tu vis aujourd'hui. Je t'embrasse.
Voilà. Donc il vous embrasse. Ça, c'était en 2003, parce que vous avez joué dans Qui a retué Pamela Rose.
Oui, mais là, j'avais un vrai rôle.
Là, vous aviez un vrai rôle. Mais en 2003, c'était une petite apparition.
Ah oui, c'était, je crois, je sais même pas si je parlais.
Vous aviez déjà 30 ans.
Oui, j'avais 30 ans. Oui, c'était réalisé par Éric Lartigot, que j'aime beaucoup. Donc j'y étais aussi un peu par amitié, parce que c'est vrai que c'était vraiment pas grand-chose. Mais j'étais content d'être sur un plateau de cinéma. Quoi. Pour moi, toutes les occasions étaient bonnes d'être sur un plateau, de faire mon métier, de voir comment ça marchait, de voir... et même si c'était une journée de tournage, même si c'était pas ce qu'il y avait de plus valorisant, je me sentais à ma place sur un plateau de cinéma et je faisais tout pour m'y trouver, quoi.
Et vous espériez plus petit rôle comme ça en passant
Oui, mais en même temps, bien sûr, quand on est comédien, on veut des belles choses. Et puis surtout, c'est plus facile, c'est ça le truc aussi, c'est que les grands rôles, c'est plus facile, quoi.
Comment ça?
Oui, parce qu'un petit rôle, c'est un petit rôle, on débarque sur un tournage, on joue 2-3 jours maximum, toute l'équipe se connaît, on n'est pas très à l'aise, on connaît pas notre nom, on vous appelle par le nom du personnage, enfin il y a tout un grand rôle, c'est plus facile, on a le temps de chercher, de s'installer, on nous fait confiance, c'est plus facile.
Bon, ce n'est pas Antoine qui est le rédacteur en chef du journal Inattendu, c'est bien Laurent Lafitte.
Oui,
je vous appelle.
J'espère.
Laurent Lafitte est avec nous jusqu'à 13h30. Antoine, c'est son personnage dans Nous finirons ensemble de Guillaume Canet qui sort le 1er mai. On va marquer une pause, rappeler l'info, écouter la météo de Laurent Lafitte et poursuivre ce journal inattendu avec plaisir. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h01.
journal inattendu de Laurent Lafitte.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Avec le 23e acte des Gilets jaunes, 60 000 policiers et gendarmes mobilisés, le gouvernement redoute la présence de casseurs dans les grandes villes, notamment Paris, où les Champs-Élysées et le secteur Notre-Dame sont bouclés. 70 personnes ont pour l'instant été interpellées dans la capitale. Un rassemblement autorisé est en cours à Bercy. Une manifestation, d'ailleurs, vient de partir du ministère des Finances. Très difficile de se déplacer à Paris aujourd'hui, notamment en métro et en bus. Pour le métro, des sections entières sont coupées sur les lignes 1, 6, 8, 9, 12 et 13. Un cadeau de 15 milliards d'euros pour les sociétés d'autoroutes révélé par la Cour des comptes. Le plan de relance de 2015 devrait leur rapporter finalement 5 fois plus que leurs investissements. Ségolène Royal, qui était en charge du dossier à l'époque, n'a pas encore réagi. Le tennis France-Roumanie, c'est du tennis féminin ce week-end à Rouen, demi-finale de la Fed Cup. C'est pas gagné d'avance pour les Bleus, Isabelle Langer.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est du costaud en face. L'équipe roumaine est notamment emmenée par Simona Halep, une star dans son pays, l'une des patronnes du circuit. C'est l'équivalent d'un Rafael Nadal, même si elle n'a pas encore un palmarès aussi fourni que l'Espagnol. Halep, c'est la gagnante de Roland-Garros l'an passé. Elle a terminé à la place de numéro 1 mondial ces deux dernières saisons. C'est un petit gabarit, elle mesure 1m68, mais son tennis est complet, c'est beau à voir. Physiquement, c'est costaud. Son seul petit point faible, c'est peut-être son mental, qui est friable par moments. C'est de ce côté-là que Kristina Mladenovic, qui l'affrontera à partir de 14h, devra s'appuyer sur le public aussi. Alors l'ambiance promet d'être chaude, même si on est dans une salle et qu'on ne peut pas profiter du soleil. Il y a 5000 places dans la tribune de la Kind Arena et 1000 seront occupées par des supporters roumains.
Merci, et ça sera à suivre à partir de 14h dans tous les rendez-vous d'infos. Le football, la 33e journée. Lyon a gagné face à Angers hier soir. Rennes a perdu à Dijon. Marseille joue à Guingamp à 17h. Ça vous intéresse le foot, Laurent Lafitte ?
Pas du tout.
Merci beaucoup. Ce soir, pour les autres matchs et toute l'actualité, Laurent Lafitte, comme tout le monde, vous aurez rendez-vous sur RTL de 19h30 à 23h. La météo, je ne sais pas si ça vous intéresse.
Ah, mais vous savez que j'ai joué à un présentateur météo.
C'est pas vrai, c'est pas la première fois que vous faites ça.
Non, c'est pas la première fois que je le fais. C'était présentateur météo télé dans un film qui s'appelle Chaos de Fabrice Gobert. Et voilà. Alors, vous voulez que je fasse la météo ?
Oh, il était d'ailleurs, c'était un salaud. Hein.
Oui, mais il était sur le chemin de la rédemption.
C'est vrai.
Alors donc je lis votre météo.
C'est
alors,
l'idée,
donc
oui.
La météo pour cet après-midi sera estivale, chers amis, avec du soleil sur une bonne partie du pays. Mais le temps deviendra plus instable sur le centre-ouest, le massif central, la Bourgogne, la Franche-Comté et près des Pyrénées avec des averses et quelques orages. Les températures pour cet après-midi, eh bien de 18 à 26, 18 à Biarritz, 20 à Bastia, 22 à Clermont-Ferrand, bonjour l'Auvergne et Toulouse, bonjour la saucisse, 23 à Nancy, 24 à Lille, 25 à Bordeaux et 26 à Paris.
Ben voilà, bon, voilà. On voit qu'effectivement vous l'avez déjà fait. Bravo Laurent Lafitte, invité et rédacteur en chef de ce journal inattendu.
Le journal inattendu de Laurent Lafitte avec Vincent Parisot sur RTL. You must leave now, take what you need, you think will last. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire.
It's Son of a No Baby Blue de Bob Dylan, chanté par Zem et Van Morrison. Elle est incroyable, la bande originale de Guillaume Canet. Hein.
Ouais.
Nous finirons ensemble, le film donc sort le 1er mai avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch entre autres. Et donc Laurent Lafitte qui, il y a 10 ans, en 2009, était seul sur scène. Laurent Lafitte, comme son nom l'indique.
Ouais.
C'était bien en 2009, je ne suis
c'était,
pas trompé.
Oui, je l'ai joué longtemps, mais je l'ai créé en 2008 même. Été 2008, ouais.
Ça fait combien? Mais non, mais dis-moi, j'ai pas mes lunettes, ça fait combien? Ah bon?
Eh ben dis donc.
Mais non, mais ça va. Fais pas semblant de chercher dans ton sac. Je vous invite, toutes les deux.
Ça me fait plaisir.
Comment? Je sais pas, ma chérie, on se voit quand tu veux. La semaine prochaine. Tu manques pas d'air, ça. Ça te dirait la semaine prochaine? Non? Je pars à Saint-Barth avec ton père. Si, je te l'ai déjà dit. Alors sois un peu moins sur toi. Si tu veux qu'on s'intéresse à toi, commence par t'intéresser aux autres. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une loi, c'est écrit quelque part. On ne doit pas aller à Saint-Barth plus de 5 fois dans l'année. Ton père a travaillé toute ma vie.
Voilà, ton père a travaillé toute ma vie. Laurent Lafitte.
Je jouais une femme.
Hein. Oui, ben on a bien compris. assez botoxé d'ailleurs, ouais, déjà. Elle
enfin,
aussi.
Un type de femme.
Oui. Ça a été un moment essentiel pour le démarrage de votre carrière. C'était avant ou après les petits mouchoirs?
C'était juste avant.
Juste avant les petits mouchoirs.
Avant. Oui, ouais. D'ailleurs, Guillaume m'a proposé Antoine dans les petits mouchoirs en sortant de mon spectacle, alors qu'on se connaissait depuis très très longtemps. Ouais. C'était vraiment une manière de prendre un peu le mon destin en main, de prendre un peu le pouvoir sur mon début de carrière, comme ça, ouais. Même si j'avais 35 ans, et de m'offrir un espace de liberté où je pouvais vraiment montrer mon univers, mon imaginaire et m'amuser en tant qu'acteur.
Alors on va passer à toute autre chose.
Oui.
On va parler de Trou Noir avec votre invité. Mais avant cela, tiens, j'ai lu que le Trou Noir, vous l'avez connu. Lors d'un hommage à Molière à la Comédie Française.
Ah oui, oui, le trou. Ouais.
Je crois que chaque membre de la troupe devait dire une phrase de Molière.
Oui, oui, c'est ça. Oui, tous les ans, on a un hommage à Molière et on cite chacun une phrase tirée de l'œuvre de Molière. Ouais. Et moi, je l'ai changé au dernier moment parce que c'était au moment des attentats de Paris. Ouais. Et donc, j'avais choisi une phrase qui résonnait un peu là-dessus et je l'ai changé au dernier moment. Et au moment où c'était à moi de parler, je m'en souvenais plus.
Rien.
C'était horrible.
Rien n'est sorti.
Non, rien. Donc, je suis passé à mon camarade suivant et après, on a fait un alerteur. Je dis non, c'est bon, ça m'est revenu. Et j'ai réussi à la dire, mais c'était horrible. C'était une forme de trou noir.
Ouais. Alors voilà, le trou noir, Laurent Lafitte, vous avez souhaité en parler. Pourquoi d'abord? L'espace vous fascine?
Non, je sais pas. Oui, ça me fascine. Vous savez, il y a ces moments où on est disponible, perméable à ce que ça représente comme à l'infini, vous voyez. Et on se laisse, et ça devient vertigineux parce qu'on arrive à prendre un peu conscience qu'on n'est rien du tout, et c'est réconfortant. Et alors, ça fait partie de ces moments-là. Quoi.
Alors, votre invité est avec nous, Alain Riazuelo, chercheur CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Oui, merci beaucoup.
Alors, vous lui posez des questions quand vous voulez. Je vais commencer.
Oui, si vous voulez.
Bon, comme vous voulez.
Bon, alors, est-ce que c'est une... pas une preuve, mais est-ce que c'est l'image ou la représentation de la création de la matière?
Alors, c'est presque le contraire. Un trou noir, il vit en engloutissant de la matière.
Ah oui.
Donc, le trou noir qu'on a imagé, il engloutit l'équivalent de une fois la masse de la Terre par jour. Ouais. Ce qui est un rythme assez faible puisque c'est un très gros trou noir, donc il a dû s'alimenter beaucoup plus par le passé. Mais donc on l'a surpris en train de son activité astronomique habituelle.
La question alors là de Béotien, puisque vous dites il absorbe à peu près la masse de la Terre chaque jour, mais qu'est-ce que ça devient?
Oui,
ça
va la masse de quoi? Ça va où? C'est quantique? Alors, ça va quelque part? Un monde parallèle?
Ça reste à l'intérieur. Alors, l'intérieur d'un trou noir, c'est la région la plus mystérieuse du cosmos, puisque comme rien ne s'échappe d'un trou noir, on peut pas aller voir ce qui se passe.
Ou même la lumière ne sort pas. C'est pour
ça. En tout cas, si vous voulez faire un scoop pour voir ce qui se passe, vous pouvez y aller, mais vous pourrez pas envoyer votre billet à votre rédac-chef si vous y allez. Donc, c'est une région qui est presque par définition inaccessible.
Donc c'est le vide en fait.
Alors
c'est le vrai vide.
De façon un peu imagée avec certaines réserves, disons que la matière qui tombe dans un trou noir s'agglomère au centre, qui est une région où la densité est infinie. Donc c'est très difficile de conceptualiser ça encore plus difficile de décrire ça rigoureusement en termes d'équations.
C'est parce que la lumière n'en sort pas qu'on n'avait jamais pu le prendre avoir une image.
Alors c'est pour deux raisons. D'abord parce que effectivement un trou noir étant un objet noir, le fond du ciel étant noir sur noir, on voit rien. Et ensuite, les trous noirs sont des objets qui sont soit très petits, soit très loin. Donc, dans les deux cas, il faut une résolution dans les images qu'on n'était pas capable d'avoir jusqu'à il y a quelques jours.
Est-ce qu'il y a un lien entre le trou noir et le Big Bang? Est-ce qu'il y a c'est pas du tout lié ou ça s'enchaîne, ça se précède?
Non, c'est pas lié. Selon toute vraisemblance, lors du Big Bang, l'univers est très peu structuré. Et puis se forment des étoiles, des galaxies, et au sein de ces galaxies, donc les étoiles meurent, certaines se transforment en petits trous noirs, et au centre des galaxies, pour des raisons qu'on connaît pas bien, naît et grossit un trou noir géant, qui est des millions ou des milliards de fois plus gros que les petits trous noirs qui existent en grand nombre dans les galaxies.
Donc celui qui est au centre de notre galaxie, de la Voie lactée, lui on l'a pas en photo, on l'a
Alors,
pas en image.
On a essayé, et on va finir par y arriver bientôt, il y a une raison technique qui fait qu'on n'a pas bien réussi, c'est que en fait la matière c'est un trou noir moins gros que celui qu'on a imagé. Donc la matière qui spirale autour de ce trou noir met beaucoup moins de temps pour spiraler. Et donc quand on fait, imaginez vous faites une photo, vous allez avoir un bouger si les choses tournent trop vite. Donc pour cette raison-là, le trou noir central de notre galaxie, il est plus difficile à imager que le trou noir beaucoup plus gros et beaucoup plus loin qu'on a réussi à imager.
Alors on parle de photo, c'est pas vraiment une photo. On parle d'image, c'est ça.
Voilà, la façon dont on fabrique cette image, elle est assez compliquée puisque une photo, vous pointez votre appareil photo dans une direction, vous déterminez le temps de pose, vous ouvrez l'obturateur et vous attendez que la lumière entre. Et c'est fini. Là, en fait, les lois de l'optique nous disent que ça va pas marcher. L'image ne va pas être assez nette. Et donc, le seul moyen de faire une image aussi nette que ce dont on a besoin, c'est de combiner en fait les signaux pris par plusieurs instruments qui sont répartis sur toute la surface de la Terre, voilà. Et ensuite d'enregistrer en fait le signal de ces différents instruments, un peu comme fait une caméra, sauf que là où votre caméra fait 25 ou 50 images par seconde, là le signal on doit l'échantillonner 5 milliards de fois par seconde.
C'est incroyable. Encore quelques mots. Sur cette photo, tout le monde l'a en mémoire. Il y a le trou noir au milieu et ce que vous nous disiez autour, ça tourne. Mais alors pourquoi c'est asymétrique? Parce qu'il y a, en bas de l'image, on voit clairement quelque chose, mais en haut, non.
Alors, c'est parce que la matière tourne très vite autour de ce trou noir.
C'est-à-dire, on peut avoir une idée?
Alors, à une vitesse proche de celle de la lumière, entre la moitié et la vitesse de la lumière. Donc, entre 150 000 km par seconde et 300 000 km par seconde. Voilà. C'est un chiffre astronomique.
Ah oui, c'est le cas de dire.
En astronomie, les chiffres sont astronomiques. Et donc, quand une source lumineuse se déplace à des vitesses très importantes, elle va être beaucoup plus lumineuse quand elle s'approche de vous que quand elle s'éloigne. Donc, la partie du disque où la matière s'approche de vous est plus lumineuse que la partie opposée. Et donc, de cette façon-là, on mesure en fait le contraste de luminosité entre la partie la plus brillante et la partie la moins brillante. On peut espérer déterminer de combien le disque est incliné par rapport à nous.
C'est en tout cas un événement très important d'avoir cette image aujourd'hui. Cette image, elle valide la théorie d'Einstein. Albert avait raison.
Alors, je pense que ça, c'est un peu dépassé. C'est-à-dire.
Il y a toujours le mythe que.
Déjà, employer le mot théorie, c'est toujours un peu ambigu. Parce que dans le langage courant, une théorie, c'est une hypothèse. Pour un physicien, une théorie, c'est quelque chose d'extrêmement bien établi. Donc, quand on parle de la théorie d'Einstein, c'est du solide.
D'accord.
Donc, en ce sens-là, la théorie, elle a été tellement validée depuis un siècle que on peut considérer que l'existence des trous noirs a été acquise.
On n'avait pas besoin de ça pour la valider.
Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir observer ces objets dans un contexte astrophysique et de voir comment ils interagissent avec leur environnement.
Eh ben, merci beaucoup.
Ouais, c'est passionnant.
Je pense qu'on pourra peut-être en savoir plus en lisant votre livre « Pourquoi la Terre est ronde ?» Alors, il ne s'agit pas des trous noirs, mais j'imagine qu'il s'agit de l'espace.
De la façon dont la science progresse, à partir d'une question simple.
Parce que la Terre n'est pas plate, contrairement à ce que disent certains encore sur Internet.
Moi je demande...
Vous allez pouvoir le vérifier cet été lors d'une éclipse de lune si vous lisez mon livre d'ici là.
Voilà, c'est publié chez Humasis, ça sortira dans quelques semaines au mois de mai. Merci beaucoup Alain Riazuelo d'être venu sur RTL dans le journal inattendu de Laurent Lafitte qui continue dans un instant.
Laurent Lafitte est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Ce n'est pas que la musique des experts.
La musique des experts.
Voilà. Baba Aurélie Déhou, mais c'est aussi dans la bande originale de la suite des petits mouchoirs de Guillaume Canet. Nous finirons ensemble, qui sort donc le 1er mai. La musique illustre une séquence de saut en parachute. Vous l'avez fait le saut en parachute?
Bien sûr.
C'était la première
plusieurs
fois.
C'était la première fois, ouais.
Alors,
c'est horrible. c'est atroce.
tiens, là, on fait un autre genre de saut dans l'inconnu, plutôt un monde qu'on connaît mal, c'est celui des modérateurs des réseaux sociaux. C'est un article du Monde, je crois, qui a attiré votre attention sur ces petites mains, on peut dire ça comme ça, confrontées à des horreurs en permanence. C'est ça, ça vous a...
Oui, je me suis vraiment projeté dans cet article et puis dans la vie de cet homme qui est confronté au pire de l'humain, mais qui a les moyens de s'exprimer à grande échelle. Donc ça, c'est archi contemporain.
Ouais, parce que les utilisateurs des réseaux sociaux ne postent pas seulement des vidéos de chatons ou de chiens. Il y a d'autres choses. Modérateur, un métier à risque. Reportage Sophie Jousselin.
Derrière son ordinateur, Marie scrute les milliers de commentaires publiés sur les pages Facebook, les comptes Twitter ou les forums de grands médias. C'est elle qui décide s'ils peuvent ou non être publiés.
L'objectif du modérateur n'est pas de supprimer les messages, mais de les accepter en faisant tout simplement régner la loi en tant qu'arbitre et non en tant que juge. Ils ont le droit de dire que le ciel est vert, ils ont le droit de raconter toutes sortes d'histoires, ils ont le droit de s'inventer une vie. Nous ne sommes pas habilités à juger. La seule chose que nous faisons, c'est appliquer une charte de modération.
Une charte qui interdit les propos violents, les insultes, le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme. Donc, ce genre de message sous les yeux de Marie.
T'es une vraie chienne, c'est probablement pour ça que tu es encore en vie.
Évidemment, ça ne passe pas, il ne sera pas publié. Jérémy Mani, le président de Netino, le constate. Les gens se lâchent de plus en plus sous couvert d'anonymat.
C'est-à-dire qu'avant, quand on retirait un propos pour racisme, par exemple, c'était un peu louvoyant, c'était sous-entendu, c'était des allusions. Aujourd'hui, on peut être raciste de façon complètement assumée, avec des mots parfaitement choisis et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire.
Les modérateurs ont à leur disposition des outils informatiques basés sur l'intelligence artificielle. Ils leur permettent de repérer plus facilement les messages litigieux, ceux avec des insultes bien sûr, mais pas seulement.
On a tout un corpus de mots-clés qui ne sont pas interdits, mais qui, quand ils sont ensemble, aboutissent statistiquement à des taux de rejet plus importants. Si je devais en citer quelques-uns, ça serait gay, lobby, charia, sioniste, ces mots-là qui ne sont bien sûr pas du tout interdits, il peut y avoir des débats sur tout ça, mais on sait statistiquement, froidement, empiriquement, que quand ces mots-là sont dans les messages, il y a un peu plus de risque qu'il faille le retirer que quand ils n'y sont pas. Le mot « sale » en lui-même n'est pas un problème. « Sale » plus quelque chose d'autre, généralement ça peut le devenir.
Cependant, dans certains cas, l'intervention humaine est indispensable. Des messages avec des mots interdits sont malgré tout publiés. Tout dépend évidemment du contexte.
Vous avez la personne qui va dire « arrêtez de les traiter de bougnoules ou de PD, c'est pas bien, ce sont des personnes comme vous ». Là, ces personnes-là forcément vont utiliser le terme, mais dans le but de le critiquer. C'est là où on se rend compte que l'humanité du modérateur est essentiel, qu'on ne peut pas le remplacer par un robot.
Le modérateur est un peu un rempart, il évite aux internautes d'être confrontés à des contenus choquants, mais lui ne peut pas y échapper. Davy en fait régulièrement l'expérience.
Oui, à 8h du matin, quand vous arrivez, que vous allumez votre ordinateur et que vous avez en gros plan une photo de pédophile qui s'ouvre sur votre écran, sur un site qui est normalement réservé aux enfants, ça donne la nausée.
Dans les cas les plus graves, les modérateurs transmettent les contenus à la plateforme gouvernementale Pharos, qui peut alors ouvrir une enquête.
Un reportage signé Sophie Jousselin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis allé voir votre compte Twitter, la FIT officielle, créée en 2013. Zéro. Pas un tweet, rien du tout. Sur Facebook, je suis allé voir. Pareil, alors là, une belle photo de couverture, vous êtes magnifique. Et c'est tout, pas un message depuis 2013.
Sur quoi ?
Sur Facebook.
J'ai pas de compte Facebook.
Ah bon, alors ça c'était un faux. Mais sur Twitter, c'était un vrai.
Sur Twitter, oui, j'en avais un, parce qu'il y avait quelqu'un qui en avait fait un à ma place. Et donc, du coup, j'en avais fait un juste pour pas...
Ouais. Mais, et donc, ça vous intéressera ?
Ça m'intéresse... Non, moi, j'ai pas encore trouvé comment je pouvais m'exprimer... sur les réseaux sociaux, j'ai pas encore, mais je suis pas contre. Il y a des comptes
parce que ça sert à créer un lien avec son public aussi.
C'est vraiment très individuel, quoi. Comme il y a les comptes Instagram qui sont vachement intéressants quand c'est pas juste du nombrilisme. Il y a des photographes qui peuvent montrer leur travail, des architectes, puis même des comédiens qui communiquent bien sur ce qu'ils font, quoi. Après, moi j'ai pas encore trouvé l'envie, peut-être le temps et la façon de m'exprimer là-dessus.
Laurent Lafitte est dans le Journal Inattendu pour encore quelques minutes. Ce qu'on fait, on marque une pause et ensuite on prend un invité surprise au téléphone. Comme
d'accord.
Ça. Quelqu'un que vous connaissez, que vous allez peut-être reconnaître tout de suite, on va voir.
D'accord. Allez.
Laurent Lafitte est l'invité du Journal Inattendu sur RTL.
C'est vrai, Laurent Lafitte, que lorsque vous êtes allé voir Michael Jackson au Parc des Princes à l'âge de 15 ans, vous avez fait la queue dès 10h du matin.
J'ai fait la queue pour Michael Jackson.
J'attendais celle-là, effectivement.
Pardon, je suis désolé.
Non, mais c'est normal. Pardon, en même temps, je vous ai tendu la perche, si je puis dire.
C'est lamentable. Ouais, j'étais très, très, très fan. Et oui, il faisait le concert, son concert Bad, Very Bad Tour au Parc des Princes. Et j'y étais avec mon t-shirt Michael Jackson.
Ouais, vous étiez fan à fond.
Bah oui, du coup, là, c'est vrai que c'est un peu.
Ça vous a refroidi toutes ces révélations, ces accusations.
Là, le documentaire qui est passé sur M6, ça m'a vraiment. Ça m'a.
Glacé.
Vraiment glacé et traumatisé, quoi. J'ai mis vraiment du temps à. Je suis resté dedans longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de son œuvre? Comment on l'aperçoit? C'est une vraie question, quoi.
On va pas se quitter sans un coup de fil surprise. C'est la tradition. On a en ligne quelqu'un que vous connaissez. Je vais quand même vous mettre sur la voie. C'est un réalisateur pour lequel vous allez tourner il y a pas si longtemps. Bonjour, invité surprise.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ça vous dit rien? Alors, si. C'est un film qui vous a fait perdre la tête.
Oui, j'ai reconnu tout de suite.
Mais là, c'est trop facile.
Bah là, c'est un peu facile.
Bonjour, j'avais reconnu Pierre.
Donc, Pierre Scholler avec nous, évidemment. Un peuple et son roi, sorti l'an dernier. Vous étiez Louis XVI, Un peuple et son roi. Votre film, Pierre Scholler, avec Adèle Haenel et Gaspard Ulliel. Comment vous avez pensé à Laurent Lafitte pour jouer Louis XVI?
C'était une évidence avec la ressemblance physique.
On disait plus Michel Leb que Louis XVI.
Voilà, merci.
Il est trop âgé, Michel Leb. Michel était beaucoup trop âgé. Je voulais respecter les âges. Non, c'est parti sur l'idée de. En fait, Louis XVI avait dégagé une silhouette assez proche de De Gaulle, c'est-à-dire quelqu'un de très grand, très imposant. Mmh. Et surtout de bien plus intelligent que la vie culturelle en fait. Donc ça, c'est le portrait de Laurent Lafitte.
Ouais. Ah. C'est ça. Donc il avait tous les atouts pour jouer Louis XVI.
Oui, absolument, mais même plus.
J'avais un faux corps quand même, je précise.
En fait, il faut vous dire aussi que c'est Louis XVI incarné ad aeternam en 6 jours de tournage. Donc vous voyez la difficulté de l'exercice.
Quel regard, vous, le réalisateur, parce qu'aujourd'hui, on va dire, Laurent Lafitte, ça fait quelques années qu'il monte, mais voilà, c'est quand même l'acteur aujourd'hui qui explose, non?
Non, faut pas qu'il explose.
Ouais.
D'abord, je pense que c'est bien qu'il parle aussi. Ouais. C'est un peu gênant de parler en présence des gens.
C'est agréable.
Alors, non. Vous pouvez pas, non?
Moi, oui, c'est vrai que c'est très gênant parce qu'on peut que se dire des choses gentilles.
Ouais.
Je vais pas dire
mais
que
si. C'est.
Ben non. Si. Non, en plus, j'ai rien de méchant à dire. En plus.
Ouais.
Oui. Non, mais ça me fait super plaisir parce que j'aime beaucoup le travail de Pierre. Et puis, ce qui est important quand on est artiste, c'est de pouvoir aussi s'exprimer sur son époque, mais en restant au bon endroit, en restant à sa place. Et j'aime beaucoup comment Pierre, en restant un homme de cinéma, un cinéaste, parle de son époque, parle de la politique, et même quand il fait un film d'époque, c'est aussi la résonance contemporaine que ça, qui est presque plus importante que la mythologie ou que l'histoire, quoi.
Bien sûr, merci beaucoup, c'était juste un petit clin d'œil, mais je sais que ça lui a fait plaisir.
Merci Pierre.
La prochaine fois, l'invité surprise, vous le mettez en début, hein.
Merci Pierre, c'est parce qu'il a été très bavard.
Je te rappelle pour qu'on se rattrape.
À très bientôt, merci Pierre Scholler, donc à qui on doit effectivement Un peuple et son roi.
L'exercice de l'État.
Et l'exercice de l'État, vous parliez de politique. Merci, je sais que jeudi prochain, à 9h, vous serez dans Laissez-vous tenter avec toute l'équipe du film, évidemment, pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été dans ce journal inattendu.
C'était sympa, merci beaucoup.
À très bientôt, et tout de suite sur RTL, on retrouve Confidentiel, Jean-Alphonse Richard, émission consacrée aujourd'hui à Paul Bocuse.
RTL. Le journal inattendu.